France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec le sociologue Jean-Pierre Le Goff qui n'en finit pas de s'interroger sur les bouleversements provoqués par mai 68, lui qui a théorisé le concept de gauchisme culturel. Pour preuve, son dernier livre, La France d'hier, dans lequel il évoque sa jeunesse pendant les 30 glorieuses, photo d'une époque révolue qui a laissé la place à une société plus instable dont la crise des gilets jaunes est peut-être une des conséquences. Il nous dira ce qu'il en pense, lui qui disait au début du mouvement, il y a 2 mois, que c'était la revanche de ceux que l'on a traités de beaufs et de ringards. On parlera également avec lui d'une possible convergence des luttes entre gilets jaunes et syndicats, comme l'a montré la journée d'action de la CGT mardi. On abordera aussi la question plus politique de la sortie de crise à travers le grand débat, avec un reportage sur celui qui a eu lieu hier en Saône-et-Loire avec des jeunes en présence d'Emmanuel Macron. Également au sommaire de cette émission, préparée par Pierre Gaufre et réalisée par Marie-Annick Rimbaud, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis et les bonnes ondes de Sandrine Houdin ce soir, un assassin dans mon salon où le succès des escape games à domicile, une nouvelle tendance qui, comme tous les phénomènes de société, devrait intéresser notre invité. À 19h20 au téléphone sonne, question ce soir sur le risque incendie. La tragédie du début de la semaine à Paris nous rappelle qu'il y a des gestes à observer en cas de sinistre. On parlera aussi du difficile métier de pompier, car en plus des dangers rencontrés au quotidien et du manque de moyens qu'ils ne cessent de dénoncer, ils font face de plus en plus souvent à des agressions. Sur tous ces sujets, vous pouvez déjà nous appeler au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Jean-Pierre Le Goff.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes donc sociologue, spécialiste entre autres de mai 68, ou plutôt on va dire de l'héritage impossible de mai 68, comme vous l'avez écrit dans un livre resté célèbre il y a 20 ans. Plus récemment, vous avez publié La France d'hier, récit d'un monde adolescent sur les années avant 68. On y reviendra dans la deuxième partie de cette émission, car c'est votre histoire à vous. Mais vous allez d'abord nous livrer votre éclairage sur la France d'aujourd'hui, celle des Gilets jaunes, vous qui avez publié en 2012 La fin du village, en 2016 Malaise dans la démocratie. Ça fait maintenant pratiquement 3 mois que samedi après samedi, des gens se mobilisent, Gilets jaunes sur le dos, ce sera encore le cas demain. Ce mouvement, pour vous Jean-Pierre Le Goff, qu'est-ce qu'il dit de notre société d'aujourd'hui?
Il révèle une fracture qui n'est pas la seule, mais qui est une fracture à la fois sociale et territoriale, là on l'a dit, mais je pense aussi culturelle, c'est-à-dire que la France aujourd'hui est dans une situation, j'avais écrit un livre qui s'appelait « La France morcelée ». Là on voit bien qu'avec les gilets jaunes, tout d'un coup arrivent, si vous voulez, sur la scène publique, des gens qui avaient tendance à être plutôt oubliés, pour le dire de façon très schématique.
Mais oubliés par qui?
Par le pouvoir politique, et je dirais aussi en grande partie par les grands médias. Qu'est-ce qu'on voyait antérieurement, j'allais dire, dans l'espace public? Bon, il y avait un peu le modèle du gagnant, de la mondialisation, vous voyez, lié. Mais il n'y avait pas simplement ça, il y avait ce qu'on appelle, d'ailleurs il faudrait définir le mot, les bobos, avec leur association, une certaine valorisation, avec moi ce que j'appelle un peu le gauchisme culturel, on y reviendra. Ça, vous aviez ça, et de l'autre côté, vous aviez quoi? Eh bien, en bas, si j'ose dire, de l'échelle, vous aviez les banlieues, dont on a beaucoup parlé depuis 20-30 ans, d'ailleurs. Il y avait aussi les SDF, la pauvreté, les restaurants du cœur, et les migrants. Mais, tout d'un coup, surgissent des catégories sociales qui semblait avoir un peu pas disparu, mais dont on entend, et tout d'un coup ils viennent, ils disent, on est là
au-dessus des plus pauvres, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, c'est-à-dire des catégories moyennes qui d'ailleurs ne sont pas au chômage forcément, mais qui sont dans des nouvelles formes, on peut dire, de précarité, ce qui veut pas dire la pauvreté extrême bien entendu, hein, d'instabilité, de précarité, et puis des retraités, des chauffeurs de camions, des patrons de petites entreprises, des artisans, des commerçants, des gens qui n'existaient pas trop sur la scène sociale et qui avaient d'ailleurs le sentiment, je dirais, d'être assez méprisés. Hein, on ne parlait pas d'eux. Ou alors, bon, la fameuse phrase, je vous lis, de les franchouillards, en gros, hein, ceux qui marchent au diesel et qui fument des clopes, vous voyez, bon. Puis il y avait un certain nombre de petites phrases un peu déstabilisatrices, on va dire maladroites, mais je pense que ça renvoie à plus que ça, d'Emmanuel Macron. Donc, une question d'être oublié, et tout d'un coup, on sort le drapeau français, avec des drapeaux d'ailleurs un peu régionaux. On est là, reconnaissez-nous, et on va pas lâcher.
Et on chante la Marseillaise.
Et on chante la Marseillaise, on chante pas l'international, si vous voulez. C'est tout à fait nouveau, parce que quand on parle de mouvement social, on parle de quoi? On a en tête souvent le mouvement ouvrier passé, qui était quand même structuré, avec des organisations syndicales, les partis de gauche, vous voyez, des services d'ordre encadrés. Bon. Alors évidemment, la CGT au début d'ailleurs, la gauche sait pas trop. Qu'est-ce qu'on fait avec ce mouvement? C'est pas, ça correspond pas à nos schémas. C'est pas la classe ouvrière. Bon. Et puis, quel est le projet? Ben, il y en a pas de projet véritablement alternatif. Par contre, il y a un ras-le-bol. Le ras-le-bol, c'est maintenant. C'était derrière un gilet jaune. Et donc, c'est nouveau. C'est un mouvement social totalement inédit. Enfin, à mon avis, inédit, même s'il peut rappeler d'autres choses. Et qui arrive tout d'un coup. Et qui surprend tout le monde. Il surprend tout le monde et il a un certain nombre de caractéristiques tout à fait nouvelles et aussi problématiques.
Mouvement social, Jean-Pierre Le Goff, mais avec quand même un relent de lutte des classes, parce qu'on l'entend ça.
Ben oui, mais c'est très bizarre. Figurez-vous que la gauche, qui était quand même, s'est formée, toute son identité depuis le 19e siècle, s'est formée sur la question sociale. Et quand vous regardez l'évolution de la gauche et la garde...
Vous voulez dire qu'elle l'a oublié, ça, c'est ça?
Eh bien, c'est devenu une question... La lutte contre les discriminations et, je dirais, les nouveaux mouvements sociaux qui sont parus dans l'après 68, hein, c'est-à-dire le mouvement écologique, le mouvement des jeunes, des étudiants, des lycéens, des femmes, eh bien, il y a eu un déplacement de la question sociale, qui était la question identitaire centrale de la gauche, vers ces mouvements-là. Y compris quand vous regardez, par exemple, l'Humanité d'aujourd'hui, qui a beaucoup de difficultés, le journal du Parti communiste. Je sais pas, si vous voulez, quand vous prenez Georges Marchais, il y a 30 ans, sur la lutte de classe, c'était pas tout à fait la même chose.
Enfin, l'Humanité dénonce quand même, jour après jour, la précarisation grandissante de la société.
Oui, mais en même temps, ça va de soi qu'il faut être pour la PMA, y compris remboursée par la Sécurité sociale. Bon, donc vous avez plein de choses qui se sont mélangées. Ce qu'on appelait mouvement social jusqu'à présent, c'était des restes de lutte de classe, notamment avec la fonction publique qui défilait dans les rues, plus ces nouveaux mouvements sociaux. Un sociologue comme Bourdieu disait, voilà, ça c'est le nouveau mouvement social, etc. Tout d'un coup, le mouvement social qui arrive, si je puis dire, il ne ressemble pas à ça. Il est pas... L'idéologie qui le structure, l'avenir, ben, c'est des points d'interrogation. C'est un mouvement qui, sous beaucoup d'aspects, est informe. D'ailleurs, même dans les manifestations, on a beaucoup de mal à l'encadrer, on sait pas trop.
Enfin, c'est quand même avant tout peut-être le rejet d'une forme de mondialisation et de ses conséquences. Et ça, une partie de la gauche quand même n'a pas oublié de le dire, ça depuis un petit moment.
Oui.
Et notamment depuis 2005.
Oui, mais le problème qui est posé, c'est que je pense que le sectarisme de la gauche et le mépris qu'a eu une partie de la gauche, je veux dire, parce que les élus de terrain, à mon avis, c'est quand même un peu différent. C'est-à-dire, quand vous êtes confronté, notamment en province ou dans... ou là, comme on appelait ça antérieurement, la France profonde. Mais enfin, vous voyez les cas de précarité, de misère, etc. Donc, mais alors, il y a eu, je sais pas comment l'appeler, un milieu, si vous voulez, qui, pour ces gens-là, on n'avait pas d'ailleurs, il y a une association de gauche, j'ai oublié le nom, qui disait, mais on va pas, ces gens-là ne votent pas pour nous, d'une certaine façon. Et toujours l'image aussi d'extrême droite. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments d'extrême droite. Mais vous voyez, ce mépris, il vient de là, à mon avis.
Alors, on va continuer à en parler, Jean-Pierre Le Goff, mais on va écouter deux femmes, gilets jaunes. C'était samedi dernier, lors d'une manifestation à Rouen, en Normandie. J'ai fait un peu exprès, hein, puisque vous êtes normand. Élodie et Sabrina, elles sont au micro de Christine Wurtz de France Bleu Normandie. Et elles commencent par parler de la hausse des prix.
On va rien lâcher alors qu'il vient d'augmenter hier les produits de première consommation à plus de 10%. C'est, enfin, je veux dire, au bout d'un moment... On lâchera rien, Macron, il peut dire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut, il peut nous balancer ses CRS, il peut me balancer des lacrymos, des flashballs, je serai là tous les week-ends.
Vous avez pris ça comme une provocation?
Exactement, ouais, tout à fait. On lui demande de pouvoir vivre mieux, et en fait, il augmente tous les produits de première nécessité de 6 à 10%. Donc ouais, c'est une provocation de sa part, encore une fois. C'est Macron, il changera pas, ben nous non plus, on changera pas, on sera là.
Il nous a méprisés jusqu'à maintenant, des illettrés, des séditieux. Ben non, on n'est pas des séditieux, on est juste là pour dire qu'on en a ras-le-bol. De pas pouvoir finir les fins de mois, de pas pouvoir partir en vacances, de pas pouvoir s'acheter à bouffer comme il faut, de pas pouvoir emmener nos enfants au cinéma, de pas pouvoir payer des activités à nos gamins. Nous on en a ras le bol. Moi j'en ai marre de demander tous les mois à mes parents de me payer une facture de fuel, quoi. Voilà. Ras le bol. Ras le bol. Je viens pas tous les week-ends parce que j'ai mes enfants de temps en temps, ils sont pas. Voilà, je viens quand je peux, mais quand je peux, je suis là. Et je serai là dès que je peux, je serai là. Et Macron, il pourra dire ce qu'il veut, il connaît pas la vie, il sort de son école, il connaît pas la vie, il sait pas ce que c'est de galérer tous les mois. S'il avait vécu comme nous, je pense qu'il serait pas comme il est aujourd'hui.
Voilà, ces deux femmes, Mélodie et Sabrina, Jean-Pierre Le Goff, comment vous réagissez quand vous les entendez? Parce que ça fait 3 mois maintenant pratiquement qu'on entend ça, semaine après semaine.
Le mouvement a remis à sa façon la question sociale, c'est le paradoxe, sous une forme nouvelle, mais dans une situation historique qui est quand même assez décomposée, et dans une France fracturée. C'est pour ça qu'il y a un ras-le-bol, ça s'est dit, et plus le vécu, plus la souffrance. Il faut savoir aujourd'hui que la question sociale, par rapport à ce qui existait il y a 30-40 ans, est vue à travers la souffrance, la victime et la souffrance. Or, quand vous mettez en face des gens qui parlent de leur vécu, de la souffrance, face à des gens qui sont un peu technocrates, si c'est ça le débat démocratique, si vous voulez, on va pas aller très loin. Et je pense qu'il y a beaucoup de chaos dans ce mouvement. Mais c'est pas un reproche moral. Il reflète un état de la société...
où il y a plus d'individualisme, c'est ça?
Oui, il y a, par exemple,
quand
vous regardez une chose...
ou peu.
Oui, il y a beaucoup c'est un mouvement qui est assez individualiste. C'est pour ça qu'il est difficilement maîtrisable et contrôlable. J'y vais en tant qu'individu. Si je veux mettre un peu de danger, c'est moi qui décide. D'où d'ailleurs, il devient informe et relativement, j'allais dire, immaîtrisable. Puisque dès qu'il y a quelqu'un qui dépasse, il est immédiatement remis en cause parce que toi, tu le dis, et à chaque fois, vous aviez des débats surréalistes dans la radio, à la télévision, où le gars, il dit, ben moi, c'est mon point de vue personnel. Hein, je peux pas me prononcer. Personne se prononce sur rien. Dès qu'il y en a un qui veut être représenter quelqu'un, il est immédiatement dénoncé, trahi, etc. Il y a un aspect sans culotte individualiste postmoderne, si j'ose dire, excusez-moi ces grandes expressions, si bien que c'est un mouvement qui est difficilement maîtrisable.
Mais ça peut durer longtemps comme ça, un mouvement sans porte-parole, désorganisé, ou c'est dans l'air du temps ça?
D'abord, il y a une coupure qui s'est accélérée quand même avec la population. Je pense que le tournant, c'est le 1er décembre. C'est-à-dire, là, on est monté vers les extrêmes avec des phénomènes de pression. Enfin, on dit, mais non, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Bien sûr, c'est pas simplement la question, on les traite de rouges, de bruns, de nazis. Enfin, il y a des trucs quand même qui sont un peu durs. Mais c'est vrai que sur un mouvement informe, tout le monde peut s'y articuler d'une certaine façon. Alors la question, c'est qu'ils se sont coupés, à mon avis, d'une partie de la population qui dit « mais on ne peut pas continuer comme ça, sans arrêt, la manifestation, les violences, les pressions, il y a un moment où il faut s'arrêter ». Le phénomène totalement nouveau, c'est que ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on ne lâchera pas. Et alors le phénomène encore plus nouveau, si je prends 68, parce qu'en 68, avec les violences, l'opinion avait... vite changer de bord, si vous voulez, hein, entre le début de mai 68 et la fin, après les nuits des barricades, il y avait des morts, et bien là, l'opinion a dit, ah stop, ça suffit. Mais là, bizarrement, il y a eu des violences, et vous avez une opinion qui continue de soutenir. Alors, elle n'est pas pour les violences, mais elle comprend que, le modèle, finalement, si chacun y met du sien, la France dans la mondialisation, ça sera quelque chose de bien et heureux. C'était un peu le message un peu messianique hein, du président de la République. Eh bien, ce message un peu messianique d'une France enfin réconciliée avec la mondialisation, ça fonctionne pas pour une bonne partie de la population. Pour une bonne partie de la population. Mais à côté de ça, des gilets jaunes, vous avez des gens qui sont... aussi, il y a d'autres contradictions entre les générations. On reconnaît plus la France qu'on a connue, la France d'hier.
Qui est dans votre livre, on va en parler. Jean-Pierre Le Goff, on va poursuivre évidemment la réflexion sur tous ces sujets, mais on va passer d'abord à l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Jérôme Chélius. Cette semaine, pour la première fois, Gilets jaunes et Drapeau rouge étaient ensemble à l'occasion de la journée d'action de la CGT, mardi. Mais on commence par le traditionnel rassemblement du samedi, comme toutes les semaines depuis 3 mois. Pour l'acte 12, les Gilets jaunes s'étaient donné rendez-vous à Valence, dans la Drôme.
On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là.
Les barrages filtrants, ils ne sont pas que filtrants, on a l'impression de passer des checkpoints. Moi ce matin, on m'a confisqué une ombrelle de poussette parce qu'elle était jaune. Les gens continueront à se mobiliser, quoi qu'on dise.
Valence, épicentre de la mobilisation des Gilets jaunes samedi dernier pour l'acte 12, alors qu'à Paris, ce sont les blessés des manifestations précédentes qui ouvraient le cortège. Des blessés évitables, d'après le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui mettrait bien Paris en bouteille.
S'il n'y avait pas de magasins pillés, s'il n'y avait pas de barricades érigées, s'il n'y avait pas de voitures brûlées, s'il n'y avait pas de bâtiments publics saccagés, s'il n'y avait pas de projectiles lancés sur les forces de l'ordre, s'il n'y avait pas de policiers ou de gendarmes roués de coups, en somme, si la loi était respectée, tout simplement, il n'y aurait pas de blessés.
C'est pas faux.
À l'Assemblée nationale, adoption en première lecture de la nouvelle loi dite anti-casseurs, malgré les mises en garde des défenseurs des droits humains. Critique relayée dans l'hémicycle par le député insoumis Alexis Corbière.
Écoutez les voix qui vous critiquent, monsieur le ministre et mes chers collègues. Écoutez-les, non seulement les nôtres, mais elles viennent de vos rangs. Elles viennent de gens qui vous ont aidé à prendre le pouvoir.
À l'arrivée, un record d'abstention dans la majorité sur ce texte. Parmi les députés qui ont refusé de le voter, Mathieu Orphelin qui s'inquiète d'une interdiction administrative de manifester.
Cet article 2, il pose problème. Il y a le temps, on est en première lecture. Il y aura une réécriture.
À cette heure-là, Mathieu Orphelin croyait encore en son avenir au sein de la majorité, alors que le président du groupe, Gilles Legendre, se refusait à voir dans ce vote un début de fronde.
Vous aimeriez me faire dire ça, mais c'est inexact. Il n'y a pas de malaise.
Pas de malaise. On apprenait un peu plus tard que Mathieu Orphelin quittait finalement La République En Marche. Des gilets jaunes et des drapeaux rouges ensemble dans les rues mardi à l'occasion de la journée d'action de la CGT.
Je trouve vraiment beaucoup de monde et c'est très bien parce qu'il n'y a qu'avec la convergence et avec la solidarité de l'ensemble des travailleurs, que ce soit Gilets jaunes ou avec la CGT y compris, qu'on arrivera à faire changer le gouvernement dans sa politique actuelle.
J'ai retrouvé une ferveur. Je pense que c'est convergent.
En attendant de savoir s'il s'agit bien d'un début de commencement de convergence des luttes cette semaine, sur le front de l'emploi, c'était un petit peu le monde à l'envers avec l'interdiction par la Commission européenne d'un rapprochement entre Alstom et Siemens.
J'apprécie beaucoup cette décision, bien sûr. Je regrette que ce soit la Commission qui la prenne.
Marine Le Pen disant du bien de la Commission européenne, qui l'eût cru ? Alors que Bruno Le Maire dit le contraire.
Je pense que c'est une faute politique. Parce que le rôle de la Commission européenne, c'est de défendre les intérêts économiques et industriels européens.
Les salariés d'Alstom, eux, se disent soulagés.
C'est très bien, pourvu qu'on ait du boulot encore. J'aurais eu peur de partir en Allemagne.
Et là, la décision va servir les intérêts économiques et industriels de la Chine.
Nouveau rebondissement dans l'affaire Benalla avec une tentative de perquisition dans les locaux de Mediapart cette semaine. Gravissime et inutile, dit son président Edwy Plenel.
Vendredi, je recevais une demande de la police à la demande des juges de donner nos éléments factuels d'enregistrement, de preuves. Tout cela était pour les juges. Et deux jours après, manœuvre du parquet.
Le parquet aux ordres ? Question posée à la garde des Sceaux à l'Assemblée. Nicole Belloubet n'a pas apprécié.
Je suis attachée au principe de la liberté de la presse et à la protection du secret des sources. Je crois que ce sont des pierres angulaires pour notre démocratie. Paris n'est pas Caracas.
À propos du Venezuela, voilà ce que Jean-Luc Mélenchon a dit à Emmanuel Macron qui le recevait dans le cadre des consultations du Grand Débat.
C'est pas une bonne chose de reconnaître un aventurier qui se proclame président de la République comme l'a fait ce monsieur là.
Le monsieur, c'est Juan Guaido que la France a reconnu comme président par intérim.
Où on va si on fait ça ? Hein, demain, monsieur Drouet sera président de la République, non ? Si on utilise des méthodes pareilles, une manif et derrière on change le pouvoir.
Quand on vous dit que c'était le monde à l'envers cette semaine.
Où on va ? Hein ?
Et encore merci à Jérôme Chélius, Jean-Pierre Le Goff. Vous avez retenu quoi de ce petit résumé de l'actualité de la semaine ?
Un grand chaos, j'allais dire presque comme d'habitude, c'est-à-dire on a l'impression d'un pays qui part un peu dans tous les sens, si vous voulez. C'est l'impression que ça me donne à écouter tout ça. Et j'ajouterais qu'on ne voit pas des moyens de sortir de ça. C'est ça qui est assez angoissant, je trouve, dans la situation. C'est comment on sort de cette crise. Parce que là aussi, on a des choses très contradictoires.
Macron nous dit un grand débat.
Écoutez, moi je suis pour le débat, ça peut pas faire de mal, ça fait même du bien, il est important de pouvoir échanger, c'est mieux que se taper dessus et la violence. Une fois dit ça, la question c'est qu'est-ce qu'on peut exactement en attendre ? Et là je dois dire que le grand débat est déjà, me semble-t-il, balisé à travers un certain nombre de thèmes. Enfin, je vais pas donner la suite, mais le président de la République, et quand vous écoutez un certain nombre de responsables, est assez clair. Il y a quatre thèmes qui ont été donnés qui doivent ressortir de tout ça. Donc, on va faire rentrer des choses qui ont été dites, d'ailleurs très bien, notamment, à mon avis, le point positif, c'est à propos de la démocratie locale, et à propos des maires. Là, je crois beaucoup à ça. Mais il faut quand même arrêter d'une nation délibérative, on a la vision d'un peuple qui serait totalement en train de discuter, enfin il n'arrive pas à tenir 7 heures si vous voulez, on a un chef d'État qui à mon avis est au centre de ce débat, se met en première ligne, a des allures, alors il est très brillant, tout le monde applaudit, on applaudit l'exploit, mais je m'inquiète pourquoi ? Parce que la fonction d'un président de la République, au moins sous la 5e République, enfin vous me direz il y a longtemps que tout ça est fini, mais enfin quand même, c'est d'assurer la stabilité et l'unité du pays, c'est pas de se mettre en première ligne pour montrer en retroussant ses manches, en montrant, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors tout le monde, on applaudit, il est courageux, il est talentueux, il est intelligent, il répond très bien à chaque question. D'accord, mais où est le gouvernement dans tout ça? C'est-à-dire, il est toujours au centre. Et donc, c'est une relation personnalisée, pas simplement à l'opinion, au peuple. Et attention, on peut passer très vite de la côte qui monte à la chute.
Alors justement, à propos de grands débats, on va aller en Saône-et-Loire, très précisément à l'Étang-sur-Arroux, parce que hier, Emmanuel Macron est allé participer à un grand débat, mais celui-ci était organisé avec des jeunes.
On peut continuer encore un peu, on a jusqu'à quelle heure? On a 20 minutes encore avant.
Parce et que les 20 minutes se sont transformées en plus d'une heure.
Donc j'ai noté ça, il faut qu'on regarde, vous allez attraper les ministres là tout de suite, pour pouvoir donner vos coordonnées et qu'on vous réponde sur ce point. Allez-y, on en prend là.
Si nos profs, grâce à leur volonté, arrivent à nous faire avancer dans des classes à 35 en lycée, à faire des projets sans moyens, pourquoi on ne donne pas un peu plus à cette école de la première chance pour éviter des décrochages scolaires? Merci.
Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Ryan. Je voulais revenir sur ce qu'a dit la jeune fille là aux beaux yeux. Vous trouvez pas le système français, il est un peu comme votre club de cœur, l'OM, il s'écrase quoi.
Emmanuel Macron reste stoïque.
Vous avez parlé d'éducation, d'écologie, d'Europe. C'est à vous de savoir quelle société vous voulez construire. Donc c'est à vous d'être actif, de vous exprimer dans le cadre de mouvements associatifs, syndicaux, politiques, par les élections en allant voter, par le débat citoyen qu'on est en train de faire. C'est fondamental.
Le message est reçu, au moins en partie.
Il me donne envie d'y aller.
Je veux y participer, proposer des solutions.
Faut pas non plus tout gober. On dirait qu'il cherche quand même à prendre la jeunesse sous son aile. Pour le futur, son futur à lui.
En sortant du gymnase, Simeon, un élève de terminale, résume en presque 5 heures. Emmanuel Macron n'a peut-être pas réconcilié ses invités avec la politique, mais sans doute les en a-t-il au moins un peu rapprochés.
Un reportage signé Julie-Marie Lecomte. Jean-Pierre Le Goff,
bah oui, moi je dirais, mais c'est une opinion totalement personnelle qui n'engage que moi, qu'il y a une saturation. C'est pas possible. En plus, quand c'est en direct, si vous voulez, c'est un peu le record à chaque fois. Il y a réponse à tout. Je pense que la façon dont mène le débat, mais moi j'avais vu ça avant dans le management. Allez-y, 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 mais n'importe comment. Faut savoir qu'il y a une zone de contrainte sur laquelle on ne touche pas. La finalité reste la chose, c'est une question de pédagogie. Le débat pédagogique. Je dis encore une fois qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être prises en compte. Mais moi, j'ai parlé de boîte à outils. Donnez-nous des idées pour que notre politique soit mieux appliquée.
Alors, on adapte les outils de l'entreprise. Eh ben,
on adapte des outils de dialogue.
C'est ça, c'est la Startup Nation.
Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire le manager, encore une fois, intelligent, brillant. Mais je veux dire, moi, ce qui me frappe, c'est une espèce de... Faut faire attention à la logomachie. On est dans une société citoyenne extrêmement bavarde. Pour un acte posé, combien de temps va-t-on passer à l'expliquer? Alors encore une fois, ça peut être utile, mais j'observe aussi que c'est beaucoup de mécanique. C'est-à-dire, Emmanuel Macron, depuis qu'il a fait ses réunions, il a parlé de tout. Il a réponse à tout, l'ours des Pyrénées, la carotte de créance en Normandie, les fiches sont prêtes. Et moi, je pense que c'est un peu comme le management. Il y a un moment, vous n'avez même plus envie de poser la question, ou alors vous discutez entre vous, puisque la réponse est déjà là et vous êtes assommé.
Mais quand il parle quand il est dans le grand récit national, on dit il est trop jupitérien, il est trop loin. Puis quand il redescend dans l'arène, on dit il est trop terre à terre.
Oui, ne sait pas qu'il soit trop terre à terre. Il passe par-dessus. Il n'arrête pas de parler des organismes intermédiaires, etc. Mais par exemple, le gouvernement, moi je sais pas là. Le gouvernement, il est là, on peut faire appel à lui, mais c'est le ministre. Il est ministre de tout. Il a de l'école, de tout. Bon, il y a le ministre pour compléter un peu. Et c'est un peu regardé avec une espèce de volontarisme qui me rappelle plus la motivation du manager, qui peut encore une fois être intelligent, compétent et brillant, hein, que la fonction du président de la République dans une situation de crise sociale ou politique où il faut unir et un peu stabiliser et rassurer le pays. Le paradoxe, c'est que faisons un grand débat, mais accélérons en même temps les réformes. Alors là, on peut pas. Il y a deux choses. Je vais accélérer les réformes, mais discutons-en.
Il est de droite, Emmanuel Macron, après Jean-Pierre Le Goff.
Moi, à la limite, si vous voulez, c'est pas mon problème. Il est centre-droit, centre-gauche.
Et de droite et de gauche. Ça existe ça ou pas? Ou ça peut pas exister?
Si vous voulez, je pense que ça continue d'exister. Simplement, il y a une bonne partie du pays qui ne raisonne pas de cette façon-là, qui est devenue beaucoup plus pragmatique, parce que les discours sur l'identité, les grands principes, etc., ça, à mon avis, tout à fait son utilité. Mais concrètement, on sait qu'on a affaire à une question sociale, un certain nombre de revendications sociales. Je ne sais pas s'il faut passer par le grand débat, Peut-être ça peut être utile, mais enfin, les choses sont déjà posées depuis un bon moment. Voyez, faudrait pas que le grand débat devienne un miroir aux alouettes. On a discuté, ça fait du bien, et là, je pense que le pouvoir politique a pris un grand risque. Il a lâché une parole avec des éléments d'insatisfaction qui peuvent arriver. Et je n'espère pas, mais je crains que le retour au réel soit assez difficile. Et à ce moment-là, on irait vers un chaos rampant, si vous voulez, hein, au sein de la société.
Alors, petite question, parce qu'il y a des élections européennes à la fin du mois de mai, c'est le prochain scrutin. La tête de liste LR pour ces élections, ouais, c'est François-Xavier Bellamy. C'est ouais, un homme qui est plutôt conservateur, versaillais. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que LR a raison d'aller sur ce terrain-là, sur le terrain culturel, comme ça, Jean-Pierre Le Goff?
Bah, je pense qu'avec l'Europe, elle a choisi Bellamy, mais à mon avis, elle n'ira pas d'abord sur la question culturelle. Elle ira d'abord sur la question sociale, je pense. On verra. Donc, alors, Bellamy a une image, effectivement, à propos du mariage de parentalité. Mais si vous voulez, ça devient un peu délicat. Il a dit que c'est une question personnelle. Et aussitôt, il est complètement catalogué. Moi, je connais pas Bellamy, si vous voulez. Bon, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Moi, j'attends très concrètement ce qu'il va nous dire sur l'Europe. C'est là-dessus que je vais le juger. Ce n'est pas en lui mettant une étiquette en disant « regardez le Versaillais » ou je ne sais pas quoi. Je pense qu'il faut sortir de ça, parce que on parle du grand débat, de la liberté du débat, mais d'emblée, on vous demande, je ne dis pas, on vous demande, mais dans quel camp vous êtes? Dans quel camp? Immédiatement. Et précisément, dans le domaine intellectuel et dans le domaine du débat, je pense qu'il faut faire attention, parce que on parle de restriction des libertés sur les fausses nouvelles. Bon, moi, je me méfie. On a déjà beaucoup de lois, si vous voulez. Il y a une forme de parole qui est censurée. Plus vous la censurez, plus vous la condamnez, plus elle revient par la fenêtre sous des formes extrêmes. Vous pouvez pas, dire une parole, la condamner, etc. comme ça, c'est beaucoup plus délicat. Alors, pour revenir sur les européennes, moi, j'attends de voir exactement ce qu'il va proposer, qui s'appelle Bellamy, qui soit versaillais, qu'il ait voté ou pas pour le mariage homosexuel. Je vais regarder, si vous voulez, hein. Donc, je crois pas que la droite sur la question européenne va repartir uniquement sur la question.
Non, mais je
ne
posais pas cette question de façon innocente, hein. C'est parce que comme vous dénoncez depuis longtemps le gauchisme culturel,
oui, oui,
je me suis dit que, ce choix-là devait vous interpeller.
Moi, encore une fois, je demande à voir les propositions concrètes sur l'Europe. Moi, si vous voulez, par exemple, la PMA, j'attends aussi de voir ce qu'il peut être dit, mais c'est pas le sujet, hein, honnêtement, de l'Europe. La PMA remboursée par la Sécurité sociale, on dit, mais ça fait partie du nouvel ère du temps, par exemple. C'est évident, il y a même pas de discussion. Si vous dites c'est un peu plus compliqué qu'on le croit, attention, l'étiquette arrive, hein, et là, vous êtes vite classé de l'autre côté. C'est ça qui me rend, si vous voulez, un peu, critique sur la période actuelle, c'est qu'il faut quand même que, avant de juger, de cataloguer, de rentrer, et l'opposition progressiste, conservateur, si vous voulez, moi je pense qu'on peut être eurosceptique sans être contre l'Europe, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça.
Alors, avant de passer à la France des années 50 avec votre livre, Jean-Pierre Le Goff, on va faire un plongeon musical dans la France des années 50, mais plongeon donc musical.
On y va pour Dactylo Rock?
Oui!
Alors attention, les gars! 1, 2, 3, 4. Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes la plus belle arme. Vous avez des tigri-tigri-di-dactylo-rap, tigri-tigri-di. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant à du tête. Bipa-pelula,
bipa-pelula.
Elles travaillent le jour et la nuit, et même parfois tous les samedis. Les dactylo-rap,
tigri-tigri-di-dactylo-rap,
tigri-tigri-di. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant à du tête. Bipa-pelula,
bipa-pelula.
Dans tous les bureaux de bas en haut, les dactylos tapent gogo, et leurs patrons leur disent go go. Yeah, elles sont douces et très jolies, ce sont les plus belles filles de Paris. Les dactylos-rap,
digri-digri-di.
Dactylos-rap,
digri-digri-di.
Faire leur bouquette, les directeurs passent pour la tête. Elles valent bien ça,
elles valent bien ça.
Dans tous les bureaux de bras, on chantera très bientôt le rock des dactylos. Go! Yeah! Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes la plus belle à vous. Vous avez des digri-digri-di-dactylos-rap,
digri-digri-di.
Sont les plus parfaites, elles chantent en tapant à du tête.
Bipa-pelula, bipa-pelula.
Dactylorock, Les Chaussettes Noires, Eddie Mitchell, 1961, choix musical signé de Djoubaka pour France Inter, mais choix musical qui ne doit rien au hasard. Jean-Pierre Le Goff, on va voir pourquoi.
France Inter, le 18-20. Claire Servagen.
Parce que dans votre dernier livre, La France d'hier, récit d'un monde adolescent des années 50 à mai 68, Jean-Pierre Le Goff, il y a plein de références musicales. Et d'ailleurs, vous la connaissiez par cœur, celle-là ?
Oui, je la connaissais très bien.
En tout cas,
à partir de 12-13 ans.
Voilà, c'est ça. Dans ce livre, vous racontez votre histoire et à travers elle, on perçoit les évolutions de la société. Vous avez grandi à Équeurdreville, c'est bien ça ?
Près de
Cherbourg, dans une famille d'artisans et de commerçants qui gagnaient plutôt bien sa vie, c'est ce que vous écrivez. Vous étiez socialement dans l'entre-deux entre les pauvres et les gens riches. Vous faites partie de cette génération dont les parents ont connu la guerre, la misère et qui ne manquaient pas de vous le faire savoir. Dans la bouche de votre mère, ça donnait... Tu peux remercier le bon Dieu d'être venu au monde dans une famille où tu ne manques de rien. Ça, vous l'avez entendu souvent ?
Oui, souvent. Oui.
Vous racontez le poids des traditions, Jean-Pierre Le Goff.
Le
poids de la religion, notamment. C'était l'époque où un enseignant aussi pouvait déculoter un enfant, lui donner une fessée devant ses camarades sans que les parents n'y trouvent rien à redire. Ça vous est arrivé ?
Oui, bien sûr.
Ça vous a marqué ?
Bien sûr, oui. Bah, ça m'a marqué, mais ça ne m'a pas... fondamentalement, si vous voulez, traumatisé. C'était dur sur le coup. Mais il y avait un espèce de rapport à la condition humaine où c'était dur, voilà. C'est-à-dire que... et donc, il fallait affronter cette dureté de la vie. Ça faisait partie de la condition humaine de l'époque. Donc, si bien que, quand vous étiez éduqué comme ça, vous acceptiez un certain nombre de choses. Ça n'empêche pas, ça fabriquait aussi des révoltés. Ça fabriquait des anards, hein, à partir de l'adolescence. Bon, quand vous avez été éduqué, là, je parle du catholicisme, je parle des... Même la place des femmes aussi.
On va parler des femmes, mais sur la religion, c'est vraiment très intéressant, parce que vous racontez, votre mère était dévote, ça c'est le terme que vous employez.
Oui.
Vous expliquez que chez vous, il y avait dans chaque chambre un prie-dieu et un crucifix au-dessus du lit. Et puis vous expliquez bien que vous vous en êtes détaché petit à petit de cette emprise de la religion à tel point que qu'un beau jour vous êtes allé dans cette maison avec le plus jeune de vos fils, je crois. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous.
Bah,
quand il a vu le crucifix.
Quand, c'était dans la maison de mes parents, il y avait le crucifix qui était au-dessus du lit. Et à ce moment-là, un de mes enfants qui était jeune à l'époque dit c'est Bioman.
Hein, ou Goldorak, vous avez
Goldorak,
c'est
pardon.
Ça.
C'est Goldorak. Alors là, j'ai dit il y a un problème. Parce que ce qui m'apparaissait, si vous voulez, évident, puisque j'avais été élevé dedans. Hein, donc c'était comme si c'était naturel. Seulement moi j'avais rompu. À ce moment-là, j'avais un de mes enfants qui. Et là, j'ai dit il faut quand même. Remettre de la culture chrétienne au-delà même de la foi ou pas.
En fait, c'est vous qui n'aviez pas fait cette transmission.
Oui, mais je pense qu'une génération 68 a rompu, si vous voulez. Et c'était des héritiers, on était des héritiers. On avait les humanités qui n'étaient pas rien, on avait la littérature, on avait la philosophie, on avait aussi des dogmes religieux qui étaient appris par cœur. Bon, après, on pouvait s'en détacher, mais on les avait comme base, comme socle. Le problème de cette génération, c'est qu'elle s'est révoltée contre cet héritage-là et qu'elle a laissé derrière quand même largement un champ de ruines, avec des aspects que j'appelle le gauchisme culturel, hein, l'héritage impossible de mai 68. Et c'est pour ça que je pense que dans la période actuelle, dans cet état de... On parlait tout à l'heure d'une France morcelée, la question de la transmission de l'héritage, non pas pour dire qu'avant c'était mieux avant, mais il y a quand même des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, et puis surtout... faire comprendre aux nouvelles générations que le monde d'avant, c'était quand même pas la préhistoire ou le Moyen-Âge. Il pouvait être dur, il pouvait même être injuste, mais il n'était pas inhumain. Et ça, c'est très important à comprendre. Pourquoi ? Parce que vous avez des générations entières qui ont été élevées dans une espèce d'angélisme, où l'histoire commence après 68 ou même maintenant, avec une volonté d'éradiquer tout ce qui va pas. Hein, il y a le bien d'un côté, il y a le mal, et on donne des leçons de morale à tout le monde, quoi. Eh bien, à l'époque, un des aspects, à mon avis, de l'héritage, c'est que le bien et le mal sont inextricablement mêlés, et que qui veut faire l'ange fait la bête. Vous voyez, ça, par exemple, ça fait partie des humanités de Blaise Pascal. Qui veut faire l'ange fait la bête. Or, aujourd'hui, j'estime que dans la lutte contre de multiples discriminations, qui veut faire l'ange fait la bête, et on fait la bête, et on donne des leçons de morale à tout le monde. Avec le résultat que l'on sait, c'est-à-dire, ça ne fonctionne pas, mais on continue de dire, alors c'est plus la même morale. Moi, j'ai connu la morale ancienne. Vous voyez, le surmoi, le catholicisme, le moralisme vis-à-vis de la sexualité. Mais c'est carrément inversé, maintenant. c'est qu'il faut être cool, moderne.
Mais vous dites ça parce que vous êtes quoi, un gauchiste repenti, Jean-Pierre Le Goff ?
Mais repenti, moi, c'est pas mon problème, si vous voulez. C'est le problème des gens qui ont encore un surmoi de gauche, vous voyez ? Moi, le surmoi de gauche, ça m'intéresse pas. Alors, ils sont toujours mauvaise conscience. Est-ce que je suis passé à droite ? Comme si l'identité était un phénomène purement politique. Tout est politique. Mais non, justement, tout n'est pas politique. Mais le problème de cette gauche, qui aujourd'hui est un peu malade, si vous voulez, est un peu en crise, c'est qu'elle est mélangée tout. L'esthétique. Vous étiez de gauche, vous aviez une esthétique de gauche. Le rock et le jazz. Bon, bah, sauf que maintenant, vous pouvez pas le dire. Parce qu'il y a même de l'extrême droite qui joue du rock, si vous voulez. Hein. Et puis, il y avait la morale. Alors là, vous étiez toujours dans le bon camp, puisque vous défendiez la veuve et les pauvres. Ça fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que quel est le premier parti ouvrier en termes de vote ? Eh bien, on voit que c'est l'extrême... Enfin, le Front National. Voilà. Donc, tous ces schémas qui fonctionnait à un moment donné, sont remis en cause. Or, vous avez encore un petit milieu, mais qui est de plus en plus restreint, qui défend son identité, qui est mal en point. Et à ce moment-là, quand le réflexe identitaire l'emporte sur la recherche de vérité, à ce moment-là, vous devenez bête et sectaire. Et je pense que c'est une partie de la gauche, l'est devenue, malheureusement, je le regrette d'ailleurs.
Voilà. En tout cas, à vous entendre et à vous lire, l'époque actuelle ne vous enchante pas forcément, Jean-Pierre Le Goff. Mais comme vous aimez bien analyser les phénomènes de société, en voici un autre. Il concerne nos loisirs et on va voir ça avec les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Ce soir, on va s'amuser à se faire peur, ça tombe bien, les Français adorent ça. L'escape game, ce jeu d'évasion grandeur nature, à cheval entre la chasse au trésor et le Cluedo, qui fait fureur partout en France, débarque maintenant à domicile.
C'est le jeu qui a ouvert le plus de salles depuis son apparition il y a 5 ans, il y en a partout. On en compte près de 2000 aujourd'hui en France, en famille, entre amis, entre collègues. On adore se faire enfermer dans une pièce, résoudre des énigmes pour réussir à déverrouiller la porte en temps limité. Alors là, c'est la même chose, sauf que ça se passe chez vous, dans votre salon.
Dans mon salon, c'est quoi l'idée ? C'est quand même pas de s'enfuir de chez soi.
Alors là, on s'échappe plutôt d'une situation. Un exemple, un chimiste complètement dingue a propagé un virus mortel dans votre appartement. Vous avez 45 minutes pour trouver l'antidote, sinon tout le monde meurt. Sympa la soirée.
L'escape game à la maison séduit déjà du monde dans plusieurs villes de France. Vous, vous avez testé Panic Home, lancé par un jeune comédien. Lui, sévit en région parisienne. Ses proies, samedi dernier, deux couples d'amis. C'était dans le 18e arrondissement de la capitale.
Le maître du jeu demande d'abord de laisser seul pour installer le matériel, le décor, les indices, des micros, éventuellement une caméra, selon les scénarios.
Là, ils ont choisi le scénario prise d'otage. Donc le but va être de désamorcer une bombe en 45 minutes. Alors, fouillez bien. Sachez qu'il y a des indices qui servent, qu'il y a des indices qui ne servent pas. Répartissez-vous sur les énigmes. Si vous décidez de faire tous la même énigme, vous allez perdre du temps et le temps va passer très très vite. Ok ? Pas d'aide extérieure, pas d'appel à un ami, pas de 50-50. Okay.
C'est parti.
Bonsoir.
Je m'appelle Jérémy Miller.
Ah, vous avez de la chance.
Moi, j'ai jamais pu faire de soirée entre amis. Quand j'étais petit, mon père m'enfermait dans ma chambre. Ça m'a un peu perturbé. Alors, je suis allé à l'hôpital psychiatrique. J'ai décidé de poser des bombes. Comme ça, chez les gens. On y va ?
C'est parti.
45 minutes chrono.
J'étais fan d'Escape Game, j'avais pas les moyens d'acheter une salle et des décors. Et je me suis dit qu'à domicile, les personnes ont envie de ça maintenant. Le marché des salles commence à être saturé petit à petit. Et je pense que les gens ont aussi, surtout sur Paris ou en région parisienne, n'ont pas les capacités des fois de se déplacer, de payer le parking. Je pense que les gens ont envie de s'amuser à la maison, ont envie de passer des soirées comme ça, ensemble, en famille, entre amis.
Vous n'êtes pas étonné d'être demandé ?
Ah non, 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 pas du tout. Non, bah, je pense que c'est dans l'air du temps.
Il reste 43 minutes.
Attends. Ah bah attends, il y a une boîte. C'est une boîte à quoi ? Un poudrier ?
Et il y a une autre valise. Il y a une autre valise. Attends.
Ça tourne.
Il reste 39 minutes. Hein ?
Regardez bien les cadenas.
Ça va être l'enfer avec les cadenas.
On dirait du japonais ou du chinois, je sais pas, du japonais.
Attends. Il reste pile 30 minutes, Bruno. Le 4.
Bingo.
4.
Bien joué, Fabienne.
Alors, il y a quoi ? Il y a une lampe.
Il y a une clé.
Et il reste 17 minutes.
Qui est bon en maths, là ? A fois B égale A plus B plus C.
B plus C ?
Essaye B égale 1.
Le seul moyen d'avancer, c'est de trouver ABC.
Là, c'est un 8, là. C'est un 8.
15 secondes.
Le stress incroyable. Oh, ça va nous péter la gueule. Essaye.
T'avais dit quoi, Bruno ?
Oui. Allez, vite. Et 5 secondes. 4, 3. Bah, je me casse.
Raté.
Où est-ce que vous avez pêché, à votre avis?
Sur le calcul mental.
Ça vous a plu ou pas?
C'est extraordinaire, c'est vraiment une super expérience. Ça n'a rien à voir avec les jeux qu'on peut faire à la maison, autour de la table, du Monopoly au Scrabble.
C'est pas un jeu de dés où il n'y a pas un jeu de lancer, là, c'est un jeu d'équipe.
Et vous?
Moi, je me suis marré tout le temps. La bombe me faisait marrer, puis c'est très réaliste.
On se demande si ça va pas exploser, oui, quand même.
Moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est la notion du temps. On est vraiment pris par le jeu.
C'est ce que vous disent vos clients en général, ils partent, ils s'évadent.
Oui, ils s'évadent, ils oublient totalement, aussi bien qu'ils sont chez eux que leur quotidien. Ils sont partis dans un autre univers pendant une heure chez eux, en restant chez eux. Il y en a beaucoup qui me disaient qu'ils étaient perdus en étant chez eux et qu'ils ont adoré ça.
Moi, ce que je trouve sympa, c'est que d'abord, bon, tu réunis tes amis, t'es chez toi, derrière, tu te fais une bonne bouffe, t'es pas obligé d'aller dans Paris, de se garer, se retrouver. Et qu'est-ce qu'on fait derrière?
Je pense qu'il y a un vrai créneau sur le fait de le faire à domicile.
Ça peut être une super opportunité pour surprendre tes amis. C'est-à-dire, tu vois, le dîner où tu vas inviter tes amis, tu vas commencer l'apéritif, pas un escape game.
Et 18 euros par personne?
Bah, c'est rien du tout. Tu vas passer une soirée, un cinéma, un resto, t'es au double ou plus.
Donc vous êtes conquis?
Ah, complètement, à refaire.
Merci beaucoup Sandrine Houdin pour ce reportage. Alors, je me tourne vers le sociologue Jean-Pierre Le Goff. Un jeu qui recrée du lien comme ça entre les gens au lieu de passer la soirée rivée devant la télé.
Le nombre de choses qui recréent du lien social, on n'en peut plus. On pourrait dire aussi que c'est bon pour le vivre ensemble, enfin le bien vivre ensemble.
Ça vous aimez pas non, trop mais qu'on dise
moi
ça,
je pense que ça fait partie des loisirs et que c'est un peu un espèce de défoulement qui fait du bien, surtout si les gens rient, ils rigolent parce que je vais vous dire dans la période les espaces où on rigole, il y en a plus beaucoup. Et même l'humour est généralement surveillé. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce que autrement on peut être assez vite taxé de ceci ou de cela. Donc moi je pense l'élément qui me semble d'après ce que je vois, mais là je peux pas vous dire beaucoup de choses là-dessus, je connais pas assez la chose, mais c'est un peu collectif. C'est pas simplement le gars face à l'écran en train de tuer le nombre. Bon alors. Et on se donne un peu le frisson à partir des éléments d'actualité. C'est ça qui est assez marrant. Hein. La question que je poserais, moi, mais ça dépend des goûts. Et il faut tout pour faire un monde en démocratie. C'est que moi, je préfère les grands pas, si vous voulez, assez bien arrosés. Je sais pas s'il faut passer par les jeux de rôle comme ça pour
un
peu rigoler et faire des et
se marrer.
Bon, voilà. Mais après tout, chacun. Donc voilà, ça reflète. C'est intéressant parce que ça reflète. Ça prend des sujets anxiogènes. Ça les rejoue, ce qui est une forme un peu de compensation. Et puis, c'est collectif. Et en plus, on se marre. Bon, bah écoutez, il y a des tas de choses. Après tout, chacun trouve son plaisir où il veut, notamment en jouant de cette façon. Personnellement, moi, encore une fois, je préfère les bons banquets, la mode ancienne, si vous voulez.
Jean-Pierre Le Goff, merci beaucoup pour cette heure passée en notre compagnie. Je renvoie à votre dernier livre, à La France d'hier, récit d'un monde adolescent des années 50 à mai 68. C'est chez Stock, les plus âgés s'y reconnaîtront. Dans quelques instants, le journal de 19h. Ensuite, le téléphone sonne. Ce soir, cette question, que faut-il faire en cas d'incendie? Que faut-il faire en attendant les pompiers? Quels sont les bons gestes en cas de sinistre? Quelles sont les erreurs à éviter? Vous pouvez nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000.